D'abord, merci beaucoup de m'avoir convié et de me donner l'occasion avec ma femme de découvrir le Mont Saint-Michel de ce point de vue, puisque en général, quand je viens lui rendre visite, arrivant de Saint-Malo, on arrive par la mer, donc ça nous a permis aussi de découvrir ce prieuré. Et merci de me donner l'occasion de pouvoir échanger avec vous. Alors, le sujet qu'on aborde ce soir, il est infini. On peut l'aborder de 50 manières. Vous avez employé un mot sur le sort de la planète. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion dans ce rendez-vous critique auquel nous sommes confrontés ou même convoqués. Ce qui se joue, c'est notre propre destin. Mais tant mieux, parce que nous avons une communauté d'origine avec l'ensemble des vivants, et de toute façon, nous avons une communauté de destin avec l'ensemble des vivants. Donc, se joue évidemment la question de notre survie, mais comme elle passe évidemment par un respect, une réhabilitation, une résilience de l'ensemble de cet écosystème terrestre, le sort de la planète et le sort de l'humanité sont indissociables. Alors oui, on sent bien que nous sommes, c'est le moins qu'on puisse dire, dans une période critique, une période tangente. Et l'on sent parfois avec angoisse, même de temps en temps avec de la peur. Mais devons-nous nous effrayer de cette peur? Tout dépend ce que nous en faisons. Nous pouvons faire appel à ce que l'on appelle l'intelligence de la peur. La peur nous a été donnée pas forcément pour fuir, elle nous a été donnée aussi pour réagir. Et elle nous a été donnée aussi peut-être pour trouver la voie d'une forme de sagesse. Et en réalité, je pense que nous sommes à ce point très particulier de l'histoire de l'humanité, où nous devons franchir collectivement, alors pardon, c'est ma théorie, elle n'est peut-être pas très conforme, mais peut-être le troisième saut depuis que la Terre s'est formée. Le premier saut, de mon point de vue, c'est le saut de la vie. Je laisserai les uns et les autres en débattre sur son origine. Le deuxième saut, c'est le saut de l'esprit. Et nous nous trouvons, par le hasard du calendrier et de la génétique, au moment où il faut participer au troisième saut, c'est le saut du sens. Et je tiens à rentrer dans la problématique qui nous rassemble par cette notion-là, parce que pour moi, elle est essentielle. Et de grands esprits avaient bien vu venir cette difficulté, ce péril. Alors, probablement bien avant ceux que je vais citer, bien entendu. Je pensais à Bossuet, par exemple, qui disait: nous sommes d'étranges créatures qui nous affligeons des effets mais qui continuons à adorer les causes. Franchement, quand on nous regarde actuellement, on voit bien cette schizophrénie dans laquelle nous sommes. Mais plus récemment, Einstein disait: notre époque se caractérise par la profusion des moyens et la confusion des intentions. Là, on est en plein dedans. Et c'est dit autrement par quelqu'un qui m'est plus proche, qui est contemporain, qui est un de mes mentors, Edgar Morin, et qui nous sommes technologiquement triomphant, mais culturellement défaillant. Et moi, d'une manière peut-être un peu plus lapidaire, je dirais que nous sommes surdoués, mais stupides. Mais dans l'énoncé de Einstein, il y a deux lectures. Il y a une lecture angoissante, c'est-à-dire la confusion des intentions. Il n'y a rien de plus, comment dire, dangereux que de ne pas savoir où l'on va, pourquoi on y va, comment on y va, et si on peut y aller, bien entendu. Mais en même temps, il y a adossé à ce propos la profusion des moyens. Et donc nous sommes dans cette époque paradoxale où notre intelligence est mise en demeure de prendre en charge les conséquences de son propre succès. On n'est pas victime d'une faiblesse, nous sommes victimes peut-être d'une trop grande réussite. Et c'est ce qui nous empêche parfois d'ailleurs de prendre en charge cela, parce que quelque part, notre technologie, l'hypertrophie de la technologie, a dépassé notre humanité. Et nous avons pendant un moment, même encore maintenant, cédé à une forme d'ébriété, avec cette illusion qui avait des raisons d'opérer, que c'était formé au fil du temps un couple indissociable, avenir et progrès. Et donc c'était quelque chose d'irréversible, et que demain serait évidemment toujours mieux qu'aujourd'hui, et que c'était un processus infini. Et si l'on veut être un peu critique, la marche triomphante du progrès a quand même pris un petit peu de plomb dans l'œil. Simplement parce que nous avons été conditionnés à un modèle qui avait en son sein sa propre obsolescence. Pour faire très court, et pardon pour employer une formule que beaucoup connaissent, mais qui est au moins directement compréhensible, un modèle notamment économique qui est basé sur une exploitation infinie de ressources finies. Et chacun peut comprendre, sans être forcément du niveau d'un prix Nobel d'économie, de physique ou de mathématiques, qu'un modèle qui est basé sur l'exploitation infinie de ressources finies, les mathématiques imposent que l'on passe par un optimum et qu'à un moment ou à un autre, c'est le déclin. Mais plus concrètement, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à lire un livre de Guillaume Pitron sur l'effondrement des ressources, et pas simplement des ressources rares, des ressources sur lesquelles s'est constitué notre modèle économique. Et nous n'avons pas encore pris conscience que les lois humaines peuvent s'exonérer des lois de la nature. Et c'est tout l'enjeu du siècle, de ce début de siècle, c'est que ce qu'il y a comme petit dénominateur commun de l'ensemble des crises que nous traversons, qui pour finir constitue un magma qui devient une sorte de crise de civilisation, une crise systémique, le petit dénominateur commun, c'est que c'est une crise de l'excès. Notre difficulté, pour ne pas dire de temps en temps notre incapacité ou notre manque de volonté, à nous fixer des limites. Et probablement parce que nous avons dévoyé au fil du temps une notion que, me semble-t-il, nous interprétons mal, qui nous est évidemment si chère, et notamment dans notre pays, la notion de liberté. Dans l'esprit commun, sans y réfléchir plus loin, moi-même j'y ai longtemps cédé, la liberté c'est l'absence de règles. C'est l'émancipation de toute règle. Heureusement que moi qui n'avais qu'un bac plus quelques mois, j'ai eu dans mon giron quelques universitaires pour me rappeler au premier rang desquels Dominique Bourg, qu'étymologiquement, le mot liberté, ça n'est pas l'absence de règles, c'est la règle que l'on se fixe à soi-même. Camus disait « Un homme, ça s'empêche ». Eh bien, nous sommes à ce point très particulier où individuellement et collectivement, il va falloir que nous, comment dire, soutenions ce qui est vertueux, mais que petit à petit, nous nous débarrassions de ce qui est toxique. C'est l'heure du choix. Mais c'est peut-être justement cet indice de civilisation, parce que depuis quelques décennies, depuis que l'homme a changé d'échelle dans son rapport à la nature, sachant que, contrairement à ce qu'on croit, nous sommes partie prenante de la nature, mais nous avons cédé à deux principes, sans jamais les remettre en cause. Le premier principe, c'est un principe technologique. Tout ce que l'on peut faire, on le fait. Sans se soucier, je force un peu le trait, mais de se poser la question, de prendre le temps d'évaluation si ce que l'on peut faire par la technique ou la science participe à la définition première et originelle du mot progrès, c'est-à-dire à l'épanouissement du genre humain. Et puis à ça s'est adossé un deuxième principe qui nous a propulsé, c'est le principe économique, c'est tout ce qu'on peut se payer, on se le paye. Et bien nous sommes au terme de ce modèle et de ce système. Un système que nous avons érigé en institution universelle, basé sur le toujours plus, sur la compétition, sur la concentration, et sur la prédation. J'ai eu la chance, dans mes différentes expériences, de beaucoup côtoyer les peuples indigènes, premiers, racines, je ne sais pas quelle est la meilleure formule. Pour eux, l'économie, c'est protéger et partager. Et protéger pour partager. Et nous, nous avons aussi transgressé l'économie. Maintenant, l'économie, nous l'utilisons pour dépenser et nous l'utilisons pour détruire. Et donc, ce à quoi nous sommes convoqués aujourd'hui, c'est de revenir aux sources des choses. À l'origine, pour ceux qui peut-être s'en rappellent, en tout cas que ça évoquera quelque chose, à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le monde entier s'est réuni à Philadelphie pour créer notamment l'Organisation internationale du travail. Et à ce moment-là, on a défini quel était le rôle de l'économie, le rôle de l'entreprise. Et l'économie était bien un moyen au service de l'épanouissement humain. Et la raison d'être d'une entreprise était bien également au service de l'épanouissement humain. Et regardez au fil du temps comme les choses se sont inversées, et comme pour finir, nous, les humains, nous sommes devenus une sorte de capital malléable au service de l'économie sur lequel on a indexé les besoins de la finance. C'est ce monde qui nous met dans cette impasse. Un monde qui ne partage pas, un monde qui épuise. Et nous sommes à ce moment où nous devons faire l'inventaire de ce que le progrès au sens premier du terme nous a donné et que nos enfants vont hériter, mais aussi faire l'inventaire sans concession de ce qui est toxique. Et qu'est-ce qui est toxique aujourd'hui? Ce qui est toxique, c'est ce qui détruit l'écosystème sur lequel nous avons trouvé un terreau qui a permis à l'humanité d'émerger. Un équilibre, un tissu qui s'est établi sur des centaines de milliers d'années et que nous, en quelque temps, nous délitons avec ce fameux effet papillon dont malheureusement l'épisode que nous traversons tous ensemble nous montre que l'effet papillon n'est pas qu'une vue de l'esprit d'un poète, mais qu'un petit virus aux antipodes de nos territoires est capable de mettre à genoux la moitié des l'humanité. Mais ce qui est toxique aussi, c'est un modèle. Parce que l'autre jour, j'étais à Caen, je fais une petite parenthèse, pour une conférence que la région organise chaque année sur les conférences internationales sur la paix. Et il y avait un grand professeur d'histoire, je le dis sans ironie, qui énonçait les souffrances de l'humanité. Et dans ces souffrances, il y a la faim, il y a la guerre, il y a la maladie, il y a la pauvreté. Et moi, je me suis permis d'en rajouter une, qui est l'humiliation. Et pourquoi est-ce que j'en parle là? Parce que nous sommes dans un monde qui, aujourd'hui, provoque, suscite énormément d'humiliation. Et si j'emploie ce terme-là, c'est parce que la dignité humaine, ce n'est pas une option. Et le monde auquel nous avons participé, parfois encouragé, eh bien c'est un monde qui humilie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé dans les relations humaines depuis quelque temps, à cause ou grâce au succès d'une technologie, qui est que le monde s'est brutalement, soudainement connecté. Notamment par le succès d'Internet, des ondes, la mobilité. Et ce monde, en se connectant, il a levé une forme de promesse, pour l'instant virtuelle. On s'est dit, on va se connecter, donc on va se retrouver. On va échanger, on va partager. Dit autrement, on va se relier pour le meilleur et non pas pour le pire. On n'a pas franchi la deuxième étape. Oui, on s'est connecté. Ça n'a pas augmenté les inégalités, mais ça les a confrontées. C'est-à-dire que ça a donné brutalement, où que ce soit dans le monde, aux exclus une vision brutale sur les inclus. Et ça a permis de mettre en comparaison des situations. Et donc d'ajouter à l'exclusion un élément explosif qu'est l'humiliation. Et pourquoi j'en parle alors qu'on est là pour parler d'écologie, mais le mot écologie est quelque part réducteur. C'est que notamment la crise écologique, qui est pour moi la mère de toutes les crises, elle ajoute de l'injustice à l'injustice, de l'humiliation à l'humiliation, parce que chacun est en mesure de comprendre qu'ils subissent les conséquences d'un phénomène qu'ils n'ont pas provoqué, qui est la conséquence d'un modèle de développement dont ils n'ont pas profité. Et si on regarde l'histoire avec un peu d'objectivité, modèle de développement qui parfois s'est fait à leur détriment. Ça fait beaucoup à supporter. Et en tout cas, c'est incompatible avec des relations humaines apaisées. Et si je vous dis ça, c'est parce que dans ce monde maintenant très réactif, je prends un exemple. Quand un matin, comme c'est le cas pour 20 000 d'entre elles chaque jour, une femme en Afrique ou quelque part en Asie découvre que son enfant va mourir d'une maladie dont on a le remède ailleurs, tant qu'elle ne le savait pas. Elle mettait ça sur le compte du destin, de la fatalité, ça ne lui enlevait en aucun cas son chagrin, mais il n'y avait pas de colère, il n'y avait pas un sentiment d'injustice. Mais quand elle découvre que cette fameuse mondialisation a été capable d'emmener dans son village une bouteille de soda pétillante, pour ne pas la citer, mais pas un traitement antipaludéen, et que simplement parce que par le mauvais hasard, son enfant est né au mauvais endroit, quand on découvre à une échelle plus globale que le déterminisme sur Terre vaut pour 30% de l'endroit où vous naissez, de 30% de l'endroit de la famille dans laquelle vous grandissez, et que donc la part de mérite est excessivement réduite, c'est humiliant. Quand vous découvrez, comme je l'ai découvert aux Philippines, je l'ai constaté, que les typhons en répétition que vous prenez, ou comme en ce moment au Niger, qu'on a parlé des inondations chez nous, et on a bien fait d'en parler, mais on n'a pas parlé qu'en même temps, dans le Sahel, il y a des pluies, qui paraît complètement dingue, mais qui tombent au même moment sur des terres arides, et que c'est la conséquence là aussi d'un phénomène que vous subissez dont vous n'êtes pas l'auteur, tout ça n'est pas compatible, encore une fois, avec des relations apaisées. Quand vous découvrez que des ressources premières, comme des terres arables, sont accaparées par des grandes puissances et que vous n'avez plus la possibilité de nourrir votre propre famille par ce phénomène de mondialisation, évidemment, on risque de voir au XXIe siècle des situations largement déjà exprimées au moment du XXe siècle. Mais ça, c'est si nous cédons à la résignation, au fatalisme. Et pour revenir à la phrase d'Einstein, c'est oublier la profusion des moyens. C'est que si, souvent on me dit, de quoi manque-t-on pour sortir de tout cela? Deux choses. Alors il y a une chose dont on manque, parce qu'on a beaucoup trop tardé à agir, c'est le temps. Et ça, c'est vrai qu'on est dans une décennie critique, c'est pas moi qui le dis, c'est les scientifiques qui le disent. Mais ce qui nous fait défaut, c'est une intelligence et une volonté collective. Parce que nous sommes, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, dans un défi universel qui ne pourra se résorber qu'à une échelle universelle, ce qui n'empêche pas que chacun d'entre nous, d'entre vous, a évidemment sa part de responsabilité. Puisque le changement, nous devons le faire jaillir à l'échelle individuelle pour le faire subir, évidemment, à l'échelle collective. Et donc c'est cette échéance que nous devons collectivement traverser, peut-être que c'est l'ultime phase de notre processus d'homonisation, je ne sais pas. Méritons-nous, comme le dit Yves Coppens, cette intitulé d'Homo sapiens? Ben, il va falloir que nous confirmions très vite que nous sommes des Homo sapiens, c'est-à-dire capables de protéger, de préserver et de partager. Mais ça n'est pas une option. Ça n'est pas une option parce que dans ce monde justement connecté, nous sommes maintenant embarqués sur le même radeau. Alors vous savez, dans ce combat culturel, civilisationnel, écologique, parce que La crise, par exemple, que nous traversons, c'est l'avatar d'une crise qui est beaucoup plus profonde. Eh bien, dans ce combat, moi, ce qui me fait tenir, même si par moments je suis submergé par des tentations ou de colère ou de résignation, c'est que mon expérience m'a démontré quelque chose, c'est que, en réalité, il y a deux humanités. Il y a une humanité assez visible, probablement très limitée en nombre, qui, elle, n'a qu'un objectif, c'est accaparer le bien commun. Et puis, il y a une humanité beaucoup moins visible, parce qu'elle n'est pas en quête de reconnaissance, mais elle agit sous les radars, au quotidien, pour, elle, protéger le bien commun. Et donc, nous sommes dans ce moment clé, décisif, qui va l'emporter. Parce que l'humanité, cette petite fraction d'humanité qui accapare le bien commun, ou le détruit, évidemment, elle est moins nombreuse, mais comme elle s'affranchit de toutes les règles communes, elle est parfois beaucoup plus efficace et mieux organisée. Et donc la question du moment, c'est comment faire en sorte que de créer une espèce d'alliance irrésistible des bonnes volontés, de cette humanité discrète, silencieuse, bienveillante, empathique, créative et solidaire. Voilà le grand enjeu du 21e siècle qui est en fait résumé par un seul mot. C'est un enjeu de solidarité. Mais la solidarité, pour la raison que j'expliquais tout à l'heure, ce n'est pas une question simplement morale, une question éthique, c'est une condition. Dans ce monde où les inégalités se confrontent, on ne peut pas envisager un monde qui ne partage pas. Dans un monde où le substrat, le support de l'espèce humaine est en train de se déliter, ce n'est pas une option. Et on voit bien d'ailleurs, pour ceux qui ont tarder à acter que nous avions une crise écologique majeure, qu'aujourd'hui il faut être d'une mauvaise foi absolue pour ne pas voir que la réalité vient malheureusement donner raison au quotidien, aux lanceurs d'alerte, qu'on a souvent tourné en dérision, mais sans penser à quiconque en particulier. Je me souviens très bien, et quelques-uns peut-être s'en souviennent, de ce qu'on a appelé le Club de Rome, dans les années 70, qui avait très bien vu les limites de notre système, et nous sommes évidemment en plein dedans. Alors c'est effectivement un peu l'objet de l'entretien que j'ai fait, je ne suis pas là pour en faire la promotion, de l'entretien que j'ai fait avec Frédéric Lenoir, de ce livre qui s'appelle « D'un monde à l'autre, le temps des consciences ». Comment passer d'un monde à l'autre? Parce qu'on sait ce qu'il faut faire, mais on voit bien qu'on sait souvent ce qu'il faut faire, mais on ne sait pas comment faire. Comment garder du monde précédent ce qui est vertueux, des acquis démocratiques, des acquis scientifiques, des acquis médicaux, des acquis philosophiques, même technologiques parfois, mais comment transformer le modèle dans un moment très particulier, en plus en ce moment où évidemment il y a la pression du court terme, les souffrances du court terme sont souvent au détriment des exigences du long terme. Et donc nous sommes à un moment où comment on fait pour résoudre ce que les économistes appellent la tragédie des horizons, c'est-à-dire les impératifs du court terme avec les enjeux du long terme. Ça ne se fera pas dans un monde divisé. Ça ne se fera pas dans la culture de la confrontation dont se repaît notamment notre univers médiatique et même parfois politique. Ça se fera si nous sommes capables de confondre dans une unité supérieure toutes nos singularités. Serons-nous capables de le faire? Serons-nous capables de nous retrouver sur l'essentiel, de définir ensemble l'absolu prioritaire et de programmer ensemble, pas brutalement, ce dont nous devons nous séparer et ce dont nous devons développer. Et ce n'est pas quelque chose que l'on peut sous-traiter à un pays, à une fraction politique, à un tissu associatif, à quelques individus. C'est une révolution, oui, des consciences, à laquelle chacun doit prendre sa part. Parce que nous sommes, au-delà de la crise de sang, dans une crise de conscience. C'est un des drames de l'époque que nous venons de traverser et que nous traversons. Et Jean Rostand l'avait très bien vu venir, il avait dit « La science a fait de nous des dieux avant de faire de nous des hommes ». Et une des plaies de l'époque, c'est cette désynchronisation entre la science et la conscience. Et la conscience est à la traîne de la science, dans beaucoup de domaines. Et nous grandirions de temps en temps à nous imposer des temps de pause, d'introspection, dans nos démocraties qui sont happées comme des fleuves en crue, qui font les choses parce qu'ils savent les faire, mais qui, en aucun cas, n'en évaluent la pertinence ou éventuellement les effets secondaires. Donc oui, ce 21e siècle sera sobre, sera sage, sera solidaire, ou je ne vais pas dire qu'il ne sera pas, mais il ne sera pas sous des auspices très favorables. Voilà ce que je voulais vous dire en termes d'introduction à nos échanges.